au fil des bobines par l'association Cinéphile. C'est le rendez-vous mensuel proposé par Cinéphile et ses partenaires autour de la projection d'un film de patrimoine. Et ça se passe au cinéma Les Lobbies. Vous aurez le plaisir de voir sur grand écran des chefs-d'œuvre restaurés que l'on ne se lasse pas de voir et de revoir. Des films en avance sur leur époque qui ont parfois raté leur public, choqué ou décontenancé les critiques à leur sortie et qui sont considérés aujourd'hui comme des œuvres inventives et inoubliables.
Format un peu inhabituel pour notre fil des bobines, nous ne braquons pas le projecteur sur un film de patrimoine de notre programmation, mais sur un cinéaste auquel Cinéphile est fidèle depuis des années et dont nous programmons 4 des 6 récents opus, Alain Cavallier.
Quand j'essaye de me dire comment je suis venu à filmer, j'arrive aujourd'hui à peu près à savoir un tout petit peu. C'est mon émotion devant la vie. Quand je vois quelque chose qui me plaît, qui m'enchante, qui me fait rire, ou qui me rend très triste, mais qui a une espèce de force comme ça, j'ai toujours envie de filmer.
Alain Cavallier est un local de l'étape. Né en 1931 à Vendôme, j'ai pu assister à ses retrouvailles avec sa ville natale lors de feu le festival Images en Région pour l'avant-première d'Irène, qui lui avait permis un petit pèlerinage sur les lieux de sa maison natale, aujourd'hui détruite, à quelques pas de l'actuel Ciné Vendôme. Études d'histoire de cinéma, puis devient l'assistant de Louis Malle, ascenseur pour l'échafaud, Les Amants. Ses deux premiers longs, Le Combat dans l'île en 61 et L'Insoumis en 1964, tous deux traitant plus ou moins directement de la guerre d'Algérie, lui valent l'échec de la censure. J'ai vu pour l'émission le premier. Si la forme, l'éclairage, la direction des acteurs sont beaucoup de leur époque pré-Nouvelle Vague. La caractérisation des personnages est-elle très singulière? Trintignant y est un fils de famille qui rejette la voie toute tracée de reprise de l'affaire industrielle de son père pour l'amour de Romy Schneider, mais encore plus pour une cause trouble, pas totalement définie, mais qui fleure pas très bon la fachosphère, puisqu'il cherche à éliminer un influent syndicaliste. Dans ses deux films suivants, Mise à sac et La Chamade, d'après Sagan, il rentre dans le rang et cela semble lui réussir. Financièrement s'entend, car lui n'est pas très satisfait. Dans le numéro de cinéaste de notre temps qui lui est consacré, il raconte son malaise face à une comédienne maquillée, phare qui met une distance entre lui et le vrai visage de son actrice. Dans l'interview, il dit « J'ai fait 4 films avec des personnes parées, mais dans le dernier d'entre eux, j'ai eu conscience de filmer mon dernier maquillage ». Et il montre Catherine Deneuve dans La Chamade. Si tout le monde est maquillé, tout le monde se ressemble. Ce virage est plus brutal qu'un simple renoncement au fond de teint et rouge à lèvres. En effet, il s'arrête 8 ans et revient au cinéma avec Le Plein de Super en 76, un road movie décapant, coécrit avec les acteurs à partir de leurs expériences propres. 4 hommes, d'origines différentes, entre 20 et 30 ans, aux situations professionnelles et sentimentales très incertaines, se retrouvent dans une grosse Chevrolet Break que l'un d'eux convoie du nord au midi de la France. Patrick Bouchitet, Étienne Chicot, Bernard Crombet, Xavier Saint-Macary sont à la fois les acteurs du film et ses personnages. Entrevoyant cet éloignement de la fiction pure, lors d'une rencontre, toujours à Vendôme, avec l'autrice Valérie Mrejean, j'ai eu l'honneur de me faire copieusement bouler lorsque j'ai fait ce commentaire du Plein de Super comme un film documentaire sur ses comédiens. Il a grommelé que pour lui, cette séparation entre deux modes de cinéma, fictionnel ou documentaire, était purement artificielle. Passons 10 ans et venons au film qui lui permettra, sans renoncer à sa radicalité, de rencontrer son public. J'ai nommé Thérèse. Biographique, mais tout sauf hagiographique, il explore des instants dans la vie de Thérèse de Lisieux que sa brièveté et la simplicité n'empêcheront pas de devenir sainte. Après le maquillage, c'est maintenant le décor qu'il élimine, s'inspirant de Georges de la Tour. Cavallier élimine le superflu pour se concentrer sur les 3 choses qu'il aime filmer, les visages, les mains et quelques objets. Ovation à Cannes, unanimité au César, impossible d'imaginer un succès aussi massif avec un film aussi simple. La magie de ce film, c'est aussi celle de la rencontre avec une personnalité exceptionnelle, l'actrice Catherine Mouchet. Autant qu'un portrait de la petite amoureuse de Jésus qu'est Thérèse, c'est celui de son actrice qu'il nous propose.
Enfin, un scénario, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est un peu l'esprit du moment, au moment où on filme. Et l'assemblée, j'ai découvert ce que c'était qu'un groupe de femmes, entre elles, et l'invention, la légèreté, la tension qu'elles avaient les unes pour les autres. Et la délicatesse, c'était des choses qui, par rapport à la rudesse des groupes d'hommes, j'espère que la caméra a enregistré ça.
Tournant le dos à son inattendu succès, le réalisateur pousse plus loin encore les purs. Il s'est souvent passé de musique. Dans Libérame, en 93, il élimine les dialogues. Succession de courtes scènes alternativement au cœur d'un pouvoir autoritaire et d'une résistance clandestine, le sentiment de danger s'intensifie en permanence. Dans ce silence oppressant, c'est au spectateur de faire tout le boulot, d'imaginer les relations entre les personnages. Impossible de situer cette histoire, pas plus dans le temps que dans l'espace, mais cela conduit à une perception essentialisée et universalisée de la dictature. De même que dans de nombreux entretiens, il questionne la capacité de rendre au cinéma la jouissance de l'acte sexuel, ici, il se met au défi de nous faire ressentir la souffrance engendrée par la torture. C'est évidemment une expérience éprouvante, mais en même temps fascinante. Depuis Libérame, 25 ans ont passé. Monsieur Cavalier est un homme de 87 ans. Est-il rentré dans le rang ? Tout au contraire, après s'être débarrassé des maquilleurs, décorateurs, dialoguistes, il vire également les acteurs, les scénaristes, les chefs opérateurs, les ingénieurs du son, éclairagistes et producteurs. Il est filmeur, comme on est écrivain. Dans Léon le cordonnier, l'un des quatre portraits que nous vous proposons, il fait un gros plan sur Léon quand il repère à 150 mètres, dans une encoignure de l'autre côté de la rue, un couple qui s'embrasse fougueusement. Sa caméra se décale doucement, zoom lentement pour attraper l'étreinte. Cet homme filme comme il respire.
J'ai toujours envie de filmer. Alors avant, je faisais des films, j'écrivais des scénarios pour reproduire avec des acteurs, avec un récit, retrouver les émotions que j'avais ressenties dans la vie pour être juste, pour être fort. Et puis un jour, j'ai eu la chance de recevoir un objet, une caméra. Avant, les caméras étaient grandes comme ça. Il y avait un type qui faisait le cadreur, un type qui faisait le point, un type qui chargeait la pellicule. Aujourd'hui, au bout du bras, vous avez immédiatement votre geste cinématographique. Donc vous pouvez, ce qui vous plaît dans la vie, le saisir presque au moment où ça se passe. Et si en plus de ça, il y a un petit récit qui est en train de naître, eh bien, vous vous détendez, vous êtes heureux parce que vous allez le suivre. Et quelquefois, je l'ai suivi pour faire les portraits pendant 15 ans. J'ai suivi quelqu'un qui était sur un chemin pendant 15 ans. Jacotte. Alors, c'est une sensation qui est merveilleuse pour moi, parce que ça m'arrive à la fin de ma vie, il y a 25 ans que je fais ça, mais depuis 25 ans, je travaillais avec des équipes, avec du 35 mm, des laboratoires, des acteurs, etc. C'était très cher, et ça n'était pas entièrement libre. Aujourd'hui, je suis libre de filmer ce qui me plaît, à l'heure où je veux, la nuit, le jour. Je suis une espèce de en alerte cinématographique continuellement, et c'est un bonheur.
Donc, si vous voulez faire connaissance au Lobis avec Léon alias Levon Le Bouif, le cordonnier parigo-arménien qui a tant de mal à fermer boutique, et Guillaume, le boulanger entrepreneur qui galère tellement pour l'ouvrir, c'est le programme numéro 1. Si vous désirez rencontrer Jacotte, la conservatrice du petit musée parental, et Daniel, l'inclassable, ses troubles obsessionnels du comportement, son talent artistique gâché, c'est le programme 2. Et toutes ces rencontres, dans l'ordre que vous voulez, c'est près de chez vous, jusqu'au 17 décembre.
shopping. Fritos, like it. Crusty, Crustos, like it. On a wall, Liffy, folios, like it. On a tree.
Yes.